Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Et Michel Lafon. Les films à l'affiche cette semaine, Le Temps des Secrets, Bruno Rédal, La Brigade, Ambulance de nos frères blessés, Plume, L'Ombre d'un mensonge en nous et, si on a le temps, un petit dessin animé, enfin plutôt un programme de court-métrage d'animation, Le Grand Jour du Lièvre, proposé par les cinéastes. Pour la programmation musicale, eh bien, ça sera une alternance entre ce qu'on entend dans Ambulance et dans L'Ombre d'un mensonge. Et on commence par un titre très, très, très célèbre, California Dreaming. Mais cette version n'est pas celle des Mamas and Papas, c'est celle de Bobby Womack sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. J'avoue que je ne la connaissais pas. Voilà, c'est parti.
All the leaves are brown. And the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in LA. California dreaming on such a winter. Along the way, well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. I told him so. California dreaming.
California Dreaming, version de Bobby Womack sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et c'est un titre qu'on entend dans le film Ambulance. Ambulance, on en parle dans un quart d'heure parce que cette semaine, nous commençons par Le Temps des Secrets, un film de Christophe Baratier. Christophe Baratier, réalisateur, scénariste, producteur français, né en 63. Comme beaucoup, il a commencé par le court-métrage et dès le premier long-métrage, un immense carton puisque c'est lui qui, en 2003, réalise Les Choristes avec Gérard Jugnot, François Berléand et Jean-Baptiste Monnier. 2008, Faubourg 36, c'était très bien, Faubourg 36 avec Jugnot, Cadmérat, Clovis Cornillac. 2011, La Nouvelle Guerre des Boutons avec Admiral Laetitia Casta, Guillaume Canet. 2016, L'Outsider avec Arthur Dupont, François-Xavier de Maison. Et en 2021, Envole-moi avec Gérard Lanvin et surtout Victor Belmondo. Alors, le film Le Temps des Secrets est proposé au Méga CGR, au Colisée et au Pâté Quinconce. Ça dure 1h48. On est à Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d'achever ses études primaires. Dans 3 mois, il entrera au lycée. Oui, parce qu'à l'époque, ça s'appelait le lycée, ça s'appelait pas le collège, hein, quand on entre en 6e. 3 mois, une éternité quand on a cet âge, car voici le temps des vacances, les vraies, les grandes. Enfant de la ville, ce retour tant attendu à ces chères collines d'Aubagne et d'Aloche, celle de la gloire de mon père et du château de ma mère, le transporte de bonheur. Il y retrouve la nature, les grands espaces et surtout son amie Lily, toujours prêt à partager de nouvelles aventures à l'âge où le temps de l'insouciance laisse place à celui des secrets. Revue de presse très 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 partagée, hein, d'Olivier Delcroix dans Le Figaro, remettant au goût du jour l'œuvre de Pagnol, Baratier signe un film familial, bienveillant et accessible à tous. Un film qui parle autant aux enfants d'aujourd'hui qu'à ceux d'hier. Ceux d'aujourd'hui, j'ai quelques doutes. Le Parisien, niché dans un magnifique écrin de roches et de végétation, baigné de lumière splendide, ce tendre et doux portrait de l'enfance se trouve émaillé par quelques notes d'humour apportées notamment par le truculent oncle Jules, alias François-Xavier de Maison. Fabrice Leclerc dans Paris Match, film balisé avec accent surligné, certes, mais réalisé avec une infinie tendresse. Adrien Gombeau, Les Échos, le réalisateur des Choristes, Christophe Baratier, signe une nouvelle adaptation sans surprise de la saga autobiographique de Marcel Pagnol. Ce cinéma sans prétention mais formalisé n'a d'autre vocation que de nous faire rêver d'été devant la télé. Ben oui, mais c'est pas devant la télé, là, c'est devant le grand écran. Véronique Coapé, Le Monde, sur cette toile de fond sans profondeur, les acteurs peinent à jouer juste, écrasés par une mise en scène pompeuse et démonstrative. Quelle richesse dans West France. Malgré un beau casting, Le Temps des Secrets ploie sous un classicisme qui finit par l'étouffer. Et Cécile Murry continue l'exécution dans Télérama. Christophe Baratier, le réalisateur des Choristes, se contente de regarder gambader les bambins et s'attendrir les adultes, tous proprés dans leurs costumes d'époque. C'est plat, lisse et vieillot comme une carte postale de nos belles régions d'autrefois. Voilà pour la revue de presse du Temps des Secrets proposée au Méga CGR, au Pâté Quinconce. Et au Colisée, c'est un film au charme suranné, oui, qui parle d'une époque révolue, on est en 1905-1906. À travers le regard plein de candeur juvénile du jeune Marcel Pagnol, l'année de son entrée en 6e, il évoque dans cet ouvrage dont est adapté Le Temps des Secrets, il évoque ses souvenirs d'enfance, et d'enfance d'enfant de la ville notamment. Il évoque aussi son amitié avec Lily, le jeune paysan avec lequel il fait les 400 coups, et qu'il retrouve chaque été lors des grandes vacances dans la Bastide familiale, dans les collines de l'arrière-pays d'Aubagne. Mais cette année, ben, Lily va être un petit peu délaissée parce que le jeune Marcel tombe sous le charme d'une jeune pimbèche bien bêcheuse qui le mènera par le bout du nez. Il est donc dans ce film question d'amitié, des premières amours enfantines, et puis des liens familiaux, l'amour des parents de Marcel, son petit frère, son oncle, sa tante. Il est question aussi de partie de braconnage, et puis aussi, dans une deuxième partie, de l'entrée en 6e, des camarades de classe, des profs, et même de la naissance du féminisme, et oui, à travers le regard de la mère et de la tante du petit Marcel. Bref, de tout ce qui a été un petit peu la source d'inspiration plus tard de l'œuvre de Pagnol. Image superbe de la Garrigue provençale ensoleillée, anecdote savoureuse, malice des personnages avélassants, accent chantant de la région marseillaise, on retrouve ici tout ce qui fait qu'on a aimé l'écrivain Pagnol et son œuvre. Ah, si on a aimé, bien entendu, si on n'a pas aimé, on le retrouve aussi, forcément. Alors certes, bien entendu, vous l'avez compris, d'aucuns reprocheront le classicisme absolu de la mise en scène, un côté folklorique chez certains personnages, mais les amoureux comme moi de l'œuvre de Pagnol, de Marius, Fanny, César, la fille du puisatier, etc., etc., apprécieront à coup sûr ce film qualité France, plein de charme et de nostalgie qui fait la chronique d'une année à travers le regard d'un enfant jusqu'alors plein d'insouciance, mais qui pénètre peu à peu dans le monde des grands, avec leurs soucis et leurs préoccupations. Alors évidemment, c'est quand même un film qui plaira surtout à un public senior, hein. Rien d'étonnant à ce que certaines critiques n'apprécient pas du tout le film. Ça n'est pas du cinéma fait pour plaire aux critiques. Finalement, c'est un film-là qui est trop l'éloge du passé pour les critiques qui sont tous épris de modernité. Mais moi, j'ai aimé, j'ai bien aimé, et je recommande absolument à toutes les personnes de 55 et plus parce qu'ils retrouveront des choses qu'ils ont appréciées quand ils étaient enfants, parce qu'ils ont lu Pagnol, et puis ceux qui ont vu aussi La gloire de mon père, Le château de ma mère, etc. etc. Voilà, donc c'est le temps des secrets, c'est au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Changement radical, on passe au cinéaste avec un film qui s'appelle Bruno Rédal. Alors, Bruno Rédal, c'est un film de Vincent Leport, et Vincent Leport avait réalisé en 2020 Homo Botanicus, un documentaire sorti uniquement en VOD. Là, Vincent Leport est le réalisateur et scénariste de ce film, Bruno Rédal, Confession d'un meurtrier. Attention, c'est interdit au moins de 16 ans. Oui, ah, oui carrément, oui. Au moins de 16 ans.
Très violent.
Oui, enfin, il y a une scène qui est oui. très violente. Voilà, c'est une ou deux séances par jour pour ce film au cinéaste. 1h41 pour la durée. Premier set en 1905, oui, c'est un hasard, c'est la même année que le temps des secrets, 1905. Hein. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d'un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu'au jour du crime. D'après l'histoire vraie de Bruno Rédal, jeune paysan du Cantal qui toute sa vie lutta contre ses pulsions meurtrières. Les Inrecuptibles, Bruno de Ruisseau, un long métrage qui n'explique rien mais qui explore tout. Avec une justesse constante, Bruno Rédal est un grand film d'exploration. Alexandre Janoviak, dans l'écran large, Vincent Leport livre un premier film fascinant de maturité avec son Bruno Rédal. Exploration de la nature humaine très intime, crue et sans concession, un film marquant. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, un premier film qui impressionne par son sujet dérangeant et sa mise en scène clinique qui emprunte la forme du drame historique plutôt que du thriller. Sophie Grassin dans l'Obs, avec son premier long métrage étourdissant de sang-froid et d'intelligence, Leport soigne ses cadres, recourt au flashback, contraint son réalisme à l'austérité, ne cherche rien d'autre que de rendre toutes ses raisons à ce crime atroce. Et il parvient aussi grâce à Dimitri Doré, traversé par une grâce butée. Ouest France, Vincent Leport s'empare de ce fait divers pour signer une œuvre aussi puissante dans sa maîtrise que dans sa brutalité. Thomas Borès en première, découvert à la semaine de la critique, ce Bruno Rédal a autant frappé les esprits par la grâce de sa mise en scène que son oppressante brutalité. Vous voyez, une fois de plus, le mot de brutalité. Le seul qui a détesté, c'est Olivier Delcroix dans Le Figaro. Froide, fétichiste, torturée, cette étude psychiatrique empesée ennuie au plus haut point. Eh bien, moi, elle ne m'a pas ennuyé ni au plus haut point, ni au plus bas point. C'est l'histoire vraie, donc, d'un adolescent de 17 ans qui, en 1905, dans le Cantal, assassine et décapite un enfant de 12 ans et il le fait par pur plaisir. Oui, j'emploie bien le mot par pur plaisir. Le film raconte donc ce fait divers. Bruno, une fois arrêté, passe devant un comité de médecins chargé de définir sa responsabilité pénale. Et ce comité lui demande de raconter sa vie depuis son enfance pour essayer de comprendre le geste. Alors le film se base sur ce récit et les comptes rendus des médecins, montrant ainsi un être à part qui avoue avoir des pulsions meurtrières depuis son enfance, oui, depuis sa petite enfance. Alors pour quelle raison ? Bien, le film évoque des pistes, mais il se garde d'en privilégier une. Alors, c'est sûr, une enfance difficile, mais pas plus que celle de beaucoup d'autres petits paysans de l'époque. Et pas plus, d'ailleurs, que celle de ses frères et sœurs. Certes, sa mère le bat souvent. Il a été victime de ce qui peut s'apparenter aujourd'hui à un viol par un berger qu'il a initié à la masturbation. Mais il dit avoir déjà eu des pulsions meurtrières et assassines avant ce viol. Son entrée au séminaire, parce que c'est un bon élève, va l'en détourner pendant un certain temps, parce qu'il découvre là la parole de Jésus. Mais celle-ci va être mal interprétée par ce jeune séminariste et elle va le pousser à commettre cet horrible meurtre après en avoir envisagé d'ailleurs bien d'autres, parce qu'il passe à l'acte, mais il a envisagé bien d'autres meurtres avant, sans passer à l'acte. C'est un film extrêmement intéressant, austère, en partie sans doute par manque de moyens financiers, mais ça n'a aucune importance. Il y a des acteurs inconnus, mais qui sont parfaits dans leur rôle. Et puis, c'est l'évocation aussi d'une France révolue, d'une époque révolue, comme le film de Pagnol, mais un autre versant de cette époque révolue, 1905, c'est une France rurale, rude, pauvre, béant dans la religion catholique. Et puis il y a ce Bruno Rédal, un cas d'assassin très particulier qui ne cherche absolument pas à fuir ses responsabilités, qui ne revendique rien non plus. Hein. Il n'y a pas de volonté de revanche sociale, même s'il envisage d'abord de tuer des camarades de conditions supérieures à la sienne. Non, rien de politique, juste une incarnation du mal où pulsion sexuelle et de mort se mélangent. Un cas sans doute passionnant pour la psychiatrie, qui en était peut-être qu'à ses balbutiements à l'époque. En tout cas, une histoire singulière, un premier film français qui sort résolument des sentiers battus des premières œuvres habituelles dans le cinéma d'auteur. Le film aura sans doute du mal à faire son trou, hein. C'est bien dommage parce que c'est un film d'une réelle qualité et à beaucoup de points de vue. Et vraiment un film que je recommande cette semaine, Bruno Rédal. C'est pas facile, hein, c'est moins de 16 ans, et c'est au cinéaste avec une ou deux séances par jour. La Brigade, alors La Brigade, c'est au Colisée. Non, pardon, c'est pas au Colisée, c'est au Méga CGR et au Pathé Quincon. C'est un film de Louis-Julien Petit. Louis-Julien Petit, c'est un réalisateur-scénariste né en 83. Lui aussi, il a commencé par le court-métrage. Et puis, il a son actif en 2015, un premier long-métrage qui s'appelait Discount avec Olivier Barthélémy et Colline Maziero. 2016, Carole Mathieu avec Isabelle Adjani et Maziero, toujours. 2019, Les Invisibles avec déjà Audrey Lamy, Maziero et Noémie Volsky. Et puis, il avait réalisé aussi en 2019 Anna et Otto avec Félix Moati et Mireille Perrier, mais ça, c'est uniquement sorti en VOD. 1h37 pour La Brigade. Depuis toute petite, Cathy, c'est Audrey Lamy, Cathy, hein, rêve de diriger son propre restaurant. Mais à 40 ans, rien ne s'est passé comme prévu. Et elle se retrouve contrainte d'accepter un poste de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s'éloigner, ou pas. Alors, la rédaction du Parisien, ce film ne manque pas de cœur et entre deux vannes. Certaines séquences visent juste et débordent, elles, d'émotion. Corinne Renaud-Latyvelle dans La Croix, aux côtés de jeunes migrants au naturel formidable et de François Cluzet, un directeur du centre, Audrey Lamy, récompensé du prix de la meilleure actrice au festival d'Alpes d'Huez, un festival de comédie Alpes d'Huez, hein, nous régale. François Léger première, un vrai bon moment de cinéma feel good, populaire, sans être vulgaire, et que Toledano et Nakache ne renieraient pas. Ouais. Pourquoi pas. Stéphane Joby, le journal du dimanche, est prévisible, parfois naïf, mais cette comédie engagée, c'est lui avec ses jeunes acteurs improvisés et une Audrey Lamy combattante. Paris Match, malgré un scénario qui use parfois trop du cocktail rire et larmes, le film est riche d'un propos sensible sur les réfugiés et illustre encore une fois la palette comique et dramatique de l'étonnante Audrey Lamy. Nicolas Chalère dans l'Obs, le premier quart d'heure est mis en scène, le reste, phagocyté par l'ambition louable de Louis-Julien Petit, de mettre en avant la nature formidable des gamins, issus d'un vrai centre d'accueil au détriment de la tenue de son film, aux airs de Sounakash et Toledano. Ben, il y a encore la référence, pourquoi pas. Théorie Beton, les inrecuptibles, on ne s'attendait certes pas à trouver ça délicieux, mais pas non plus à un tel haut-le-cœur. Ouh là là, ouais, ben, on va pas aller jusqu'à un haut-le-cœur, même si on n'a pas trouvé ça absolument formidable. Mais bon, malgré tout, c'est un film donc sur l'accueil et l'insertion des migrants mineurs non accompagnés, comme on dit hein, en langage technocratique, en situation irrégulière et qui sont accueillis en France dans des foyers dédiés à l'enfance. Quoi. Le prétexte, eh bien, c'est l'histoire de Cathy. Cathy, c'est une femme de caractère qui, après avoir démissionné d'un grand restaurant par incompatibilité d'humeur avec la chef de cuisine médiatique qui est sa patronne, eh bien, elle ne retrouve pas tout de suite du travail. Alors, elle accepte, contre-cœur au départ, hein, un poste de cantinière dans un foyer d'accueil. Alors, les débuts sont difficiles parce que bah, c'est bien éloigné des exigences d'un grand restaurant, évidemment, mais bien vite, eh bien, elle s'aperçoit du potentiel de ces jeunes et décide de les former aux différents métiers de la restauration. Alors, pas juste cuisinier, ça peut être aussi le service, par exemple. Voilà. Donc, c'est un film qui illustre une fois de plus qu'on ne fait pas forcément de bons films avec de bons sentiments. Le réalisateur surfe sur une tendance de plus en plus présente dans le cinéma français, c'est la comédie sociale. Il y en a presque une toutes les semaines maintenant, la comédie sociale. Là, c'est la comédie sociale pleine d'optimisme sur l'insertion dans la société de jeunes en difficulté, grâce à l'acharnement et la foi de quelques adultes, toujours d'abord réticents à cause de leurs préjugés, puis convaincus par la bonne volonté, le dynamisme des jeunes dont ils s'occupent. Alors, on a vu récemment, par exemple, Compagnon, où il y a à peu près 6 mois, La Fine Fleur à Catherine Fro, c'est le même principe, des jeunes en rupture et des adultes qui les accueillent, des adultes un peu réticents au départ et puis qui trouvent ces jeunes absolument formidables. C'est toujours le même schéma narratif. On s'achète à bon compte une bonne conscience. Hein. Alors, c'est difficile de critiquer le propos au risque de passer pour un pisse-froid, voire pire, zémourien. C'est parfaitement inoffensif comme film, et ça fonctionne, c'est sûr, sur la sympathie que suscite l'histoire, mélangeant comédie et émotion, et puis les comédiens, professionnels investis, comme Audrey Lamy, François Cluzet, et puis des jeunes, si spontanés, voilà. Donc Louis-Julien Petit s'est fait un spécialiste de la comédie sociale à la française. Sur le fond, il est inattaquable, parce que généreux et sincère, il n'y a pas de doute. Scénaristiquement, cinématographiquement, c'est pas vraiment supérieur à un téléfilm moyen. D'ailleurs, les 20 dernières minutes évoquant un concours de cuisinier à la Top Chef sont même carrément ratées. C'est un film qui aura un petit peu de mal à se faire sa place dans la multitude de sorties, faute d'une vraie originalité, mais bon, ça peut passer, hein, on peut aller voir ça éventuellement, mais je vous dis, rien d'exceptionnel par rapport à Compagnon, par rapport à La Fine Fleur, par rapport à ce genre de film. Ou éventuellement, le dernier, Nakache et Toledano, c'est peut-être pour ça qu'il y avait cette allusion. avec ces deux réalisateurs dans les critiques. Voilà, allez, hop, petite pause musicale, un titre que l'on entend dans l'ombre d'un mensonge, c'est le groupe Spain, et ça s'appelle Nobody Has To Know, c'est le titre d'ailleurs, en fait, de la version originale du film L'ombre d'un mensonge, et c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, Nobody Has To Know, Spain. Nobody Has To Know, Spain, un titre que l'on entend dans le film L'ombre d'un mensonge. L'ombre d'un mensonge, dans un quart d'heure. On commence notre deuxième vague avec Ambulance. Ambulance, c'est un film qu'on peut voir au Colisée, au Pâté Quinconce et au Méga CGR. Au Méga CGR et au Colisée, c'est que de la version française. Au Pâté Quinconce, il y a de temps en temps, enfin je crois qu'il y a chaque jour, une version originale. Le film est réalisé par Michael Bay, ou Michael Bay, comme vous préférez, réalisateur de clips et de pubs, réalisateur, producteur, acteur américain en 1965. C'est lui qui est à l'origine de la saga Bad Boys en 1995 avec Will Smith et Martin Lawrence. 1996, Rock, film d'action avec Nicolas Cage, Sean Connery. 98, Armageddon avec Bruce Willis, Ben Affleck. 2001, Pearl Harbor avec Ben Affleck et Josh Hartnett. 2003, Bad Boys 2 avec toujours les mêmes. 2005, The Island avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. 2007, Transformers avec Shia LaBeouf et Megan Fox. Transformers 2, puis Transformers 3. Et puis 2013, ah, c'est très très drôle ça, No Pain, No Gain avec Dwayne Johnson, Mark Wahlberg et Ed Harris. 2014, Transformers, L'Âge de l'Extinction. 2016, 13 Hours, enfin 13 Hours, hein, tant qu'à faire, voilà, en anglais jusqu'au bout, avec de John Krasinski. Et 2017, Transformers, The Last Night. Donc vous voyez, c'est lui qui est à l'origine de la saga Bad Boys et de la saga Transformers. C'est pas toujours des films qui font dans la finesse, on est bien d'accord. Ambulance, c'est interdit au moins de 12 ans, ça dure 2h16. Et oui, Will Sharp, un vétéran décoré, fait appel à la seule personne digne de confiance, son frère adoptif Danny, pour trouver l'argent afin de couvrir les frais médicaux de sa femme. Ce dernier c'est Danny, hein, un charismatique criminel au long cours, au lieu de lui donner de l'argent, lui propose un coup. Le plus grand braquage de banque de l'histoire de Los Angeles, 32 millions de dollars. Will, prêt à tout pour sauver sa femme, accepte, mais quand leur affaire prend un tour spectaculairement désastreux, les deux frères n'ont pas d'autre choix que de détourner une ambulance avec à son bord un vieux flic, enfin il n'est pas si vieux que ça d'ailleurs, hein, un flic mortellement blessé, et l'ambulancière Cam Thompson. Voilà, pendant la course-poursuite infernale qui s'ensuit, Will et Danny vont devoir échapper aux forces de l'ordre, surmotivés, postés aux quatre coins de la ville, etc., etc. Alors, c'est ou pour ou contre, il n'y a pas de juste milieu. Alors, Caroline Vier, 20 minutes, fable vitaminée et qui égratigne le rêve américain, ambulance ne laisse aucun répit au public. Ces deux frères évoluant entre complicité et franche opposition peuvent être touchants ou effrayants selon les circonstances. Michael Bay a donné de beaux rôles à des acteurs qui parviennent à exister au cœur du chaos. Alors les acteurs, je ne les ai pas cités, c'est Jake Gyllenhaal et, alors je ne le connaissais pas, Yahya Abdul-Mateen. Emmanuel Spalacenta, cinématiseur. Oui, alors il y a une fille aussi, Isa Gonzalez quand même, il faut être complet. Emmanuel Spalacenta, cinématiseur, toute la démesure de Michael Bay dans un film d'action spectaculaire conjugué au réalisme de 13 Hours. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche. Michael Bay au top de sa forme dans ce brillant exercice de style qui filme en temps réel une course-poursuite dans les rues de Los Angeles. Philippe Gage, le point, aussi vulgaire soit-il, le style de Michael Bay dégage une inextinguible furie détonnante dans l'uniformisation ambiante d'un cinéma d'action programmé sur ordinateur. Frédéric Foubert, première, quelques dérapages dopés à l'humour noir, par exemple une opération chirurgicale menée via Zoom, rappelle les moments les plus perchés de Bad Boys 2 et donne à l'ensemble des airs de manifeste glorieusement anarch et joyeusement kamikaze, la profession de foi d'un vrai cinglé du cinéma. C'est ceux qui ont aimé, voilà, et maintenant il y a ceux qui ont détesté. Arnaud Allais, les incorruptibles derrière l'humour nanardesque du film, viennent s'immiscer des relents patriotes et misérabilistes plus problématiques. Ouais. Olivier Lame, Libération, c'est le plus gros paradoxe de ce blockbuster dégénéré, comme seul B a les épaules et la folie furieuse pour les faire advenir. Tout le plaisir qu'on est supposé à y prendre, vitesse, élan, espace, catharsis de la violence, est annulé par la forme aberrante de ces séquences d'action clipesques au-delà du sensé, toujours plus disjointes, tremblées, floutées, précipitées, parasitées, déséquencées, si l'on peut dire. Étienne Sorin, Le Figaro, Ambulance aurait pu être une série B sympathique, mais B en rajoute à tous les niveaux. Trop de plans, trop de personnages, trop de musique martiale, trop de punchlines qui tombent à plat, trop de kilomètres, trop de tout. Télérama Jacques Maurice, plus de 2 heures de virilisme, de gunfight à tout va et de violence tapageuse. C'est tout ce que propose le nouveau film du cinéaste américain, par ailleurs décalque et honté de Speed de Yann de Bond et du formidable Hit Michael Mann. Des moyens XXL pour un résultat XXS. Oui, alors à propos de Hit, je l'ai revu il y a quelques... il y a une quinzaine de jours sur la 5. Ça a un peu vieilli, je trouve, ouais. Hit. Bon, passons. Ambulance, donc, c'est au Méga CGR, au Pathé Quinconce et au Colisée. J'ai vu Ambulance, c'est un film épuisant, même pour le spectateur, à cause d'un montage quasi épileptique. Il n'y a peut-être pas un seul plan qui doit dépasser les 2 secondes sur 2h16 de film. Alors, il n'y a pas 2h16 de film, il y a bien 6 ou 7 minutes de générique. Mais enfin, voilà. Alors, 0% de vraisemblance. Hein, par exemple, un exemple, on l'a plus ou moins cité dans la critique, parmi des dizaines, il y a une infirmière ambulancière qui pratique une opération chirurgicale. Carrément, à l'extinction d'une balle dans le ventre de la victime, elle y plonge les mains, hein, comme ça, dans une ambulance lancée à toute allure sur les highways de Los Angeles, juste aidée en vidéo sur sa tablette par des chirurgiens, et le type en réchappe, sans anesthésie. Voilà, bon, il faut y croire. Donc 0% de vraisemblance, 100% d'adrénaline et d'action, dans cette histoire de braquage qui tourne à la prise d'otage et à la course-poursuite. C'est un film frénétique où ça canarde à tout va, où les voitures se télescopent sans discontinuité du début à la fin. Les amateurs de films d'action spectaculaires vont sans doute adorer parce qu'ils en auront vraiment pour leur argent, hein. Vraiment, vraiment. Il faut dire que les rebondissements s'enchaînent sans laisser le temps de souffler dans cette histoire où donc il est question d'un ancien Afghanistan qui accepte à contre-cœur d'aider son frère adoptif Danny pour réunir la somme d'argent nécessaire au traitement qui exige le cancer de sa femme. Mais il va falloir pour cela participer à un braquage. Le braquage d'une banque, et le braquage tourne mal puisque les deux frères se retrouvent à prendre en otage une ambulance avec un chauffeur et surtout une ambulancière de choc. Et puis à l'arrière, un flic blessé qui gît sur une civière. Voilà, donc c'est l'impossibilité pour la police de neutraliser le véhicule et les malfrats puisqu'il y a des otages, sinon ça aurait été réglé en 5 minutes. Mais là, non, c'est pas possible. Donc on est en temps réel et le film, le récit du braquage, c'est ça qui fait penser à Hit, hein, c'est un peu le même type de braquage. Mais surtout donc... il y a la course-poursuite dans l'ambulance par tous les flics de Los Angeles avec leurs gros moyens. Alors, la VF, j'ai vu le film en VF, n'est pas terrible, mais bon, les fans du genre de ce film n'en auront cure. Hein. La VF, c'est ce qui compte, et ce qui compte, c'est surtout l'action, l'action, l'action. Et là, pour eux, bah, c'est pur délire, survitaminé, avec en plus des oppositions de caractère et de personnalité, des punchlines, pas toujours terribles, il faut bien reconnaître. Bref, ça secoue, et pas que dans l'ambulance. Hein. Une grosse efficacité, c'est à mon avis déjà un must dans le film d'action, et puis, mais quand même, c'est quand même beaucoup trop long, 2h16, c'est trop long. Bon, voilà. Allez, ça s'appelle Ambulance, Pathé Quinconce, méga CGR et Colisée. De nos frères blessés, là, on retrouve le calme du cinéaste, ou plutôt des cinéastes, pour ce film français de Hélier Cisterne, acteur, réalisateur, scénariste, qui a commencé par les courts et moyens métrages, et puis en 2013, un long métrage Vandale, et puis il a aussi réalisé des épisodes de la série Le Bureau des légendes. De nos frères blessés, c'est au cinéaste, ça dure 1h35, c'est avec Vincent Lacoste et Vicky Krieps. De nos frères blessés, ça a droit à une ou deux séances par jour. On est en 1954, Hélène et Fernand tombent amoureux. Avec lui, elle part pour Alger, découvre sa beauté et l'attachement que Fernand porte à son pays. Alors que l'Algérie et la France se déchirent, leur vie bascule. L'histoire vraie du combat d'un couple pour la liberté. Oui, Hélène et Fernand, c'est Hélène et Fernand Piveton. Michael Mélinard dans L'Humanité. Après Vandale, Hélier Cisterne signe une libre adaptation du roman de Joseph Andras. Il redonne magnifiquement corps à l'ouvrier Fernand Yveton, engagé dans la lutte anticoloniale, et à son épouse Hélène. François Forestier dans L'Obs. Le film passionnant est porté par une conviction d'airain, un acteur formidable, Vincent Lacoste, et un désir total de s'élever contre l'indignité de l'État. On sort de là brûlé par la mort d'Yveton et la honte d'une justice asservie. Olivier Delcroix, Le Figaro, la caméra d'Hélier Cisterne, accompagne le drame avec pudeur et précision. La revue Positive, Olivier de Bruyne, malgré ses maladresses formelles, le film d'Hélier Cisterne retient l'attention grâce à son scénario passionnant, historiquement, à sa sensibilité pudique et à la conviction de ses deux acteurs principaux, Lacoste et Vicky Krieps. Adrien Gombeau, dans Les Échos, adapté d'un roman de Joseph Andras, lui-même tiré d'une histoire vraie, De nos frères blessés est aussi intéressant par son contenu que maladroit par sa forme. Il reste un film instructif sur une justice dévoyée, employée par l'État comme moyen de terreur. Thierry Chaise en première, le scénario ne parvient jamais à trouver son équilibre entre les deux personnages et crée de la frustration en restant chez l'un comme chez l'autre à la surface des choses, malgré les deux épatants interprètes. Barbara Théat dans Le Journal du Dimanche, dommage que la mise en scène classique et maladroite manque d'ampleur et ne rende pas hommage à son sujet. Jean-Marie Samoki, des Cahiers du cinéma, Hélier Cisterne se révèle incapable de susciter d'autres sentiments qu'une pitié éplorée. L'alternance systématique entre le présent du jugement et le passé d'une vie insouciante et amoureuse condamne la mise en scène à des oppositions prévisibles, obscurité versus lumière, chair tuméfiée versus érotisme. Céline Roudin-Lacroix, évocation d'un épisode méconnu de la bataille d'Alger, la condamnation à mort du militant communiste et indépendantiste Fernand Piveton, ce film peine à restituer toute la violence politique de l'époque, malgré l'interprétation sensible de Lacoste et Vicky Krieps. Le film donc de nos frères blessés est proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour, plus souvent deux d'ailleurs. C'est donc l'histoire de Fernand Piveton. Fernand Piveton, c'est un militant communiste, pied noir d'Algérie. Il va être arrêté, torturé et guillotiné pour avoir posé une bombe qui n'a pas explosé en 1956 au moment de la guerre d'Algérie et précisément de la bataille d'Alger. Le film évoque donc sous la forme de nombreux flashbacks sa rencontre en 54, donc 2 ans avant les événements que l'on voit dans le film, avec Hélène, qui deviendra sa compagne et ne cessera de le soutenir dans son action militante. Alors, je ne sais pas trop quoi dire à propos du film, qui est donc un témoignage de ce que fut l'un des aspects de la guerre d'Algérie, un des aspects parmi d'autres, à savoir celui de ces Français qui avaient choisi de soutenir le FLN dans sa lutte de libération. Alors, ben, ce sont des traîtres pour les uns, des héros pour les autres, et Fernand Piveton, eh ben, il est de ces 200 Algériens qui furent exécutés pour leur action, et semble-t-il, c'est le seul non-arabe, voilà, donc français, de souche, comme on dit aujourd'hui. Le film évoque donc l'action de Fernand et de son épouse Hélène, surtout de Fernand, la réponse des autorités françaises avec la torture, les procès expéditifs, les exécutions. C'est un film sobre sur un couple amoureux engagé, pris dans la tourmente de la guerre. Bon, moi, étant jadis prof d'histoire, j'ai pas appris grand-chose, mais après tout, pourquoi pas. Bon, c'est un film qui va passer probablement sous les radars, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, de nos frères blessés. Plume, ah, ça va être le moment de gloire de Pierre Barry. Il attend, il trépigne pour vous parler de Plume, film interdit aux moins de 12 ans, proposé par les cinéastes avec, je regarde ça tout de suite, Plume, il y a une ou deux séances par jour. C'est un film de Omar El Zoairi. Omar El Zoairi, c'est un réalisateur égyptien. Ça dure 1h52. Une mère passive, dévouée corps et âme à son mari et ses enfants. Un simple tour de magie tourne mal pendant l'anniversaire de son fils de 4 ans. Et c'est une avalanche de catastrophes absurdes et improbables qui s'abat sur la famille. Le magicien transforme son mari, un père autoritaire, en poule. Oui, j'ai bien dit en poule, hein, chicken in English. La mère, la mère n'a d'autre choix que de sortir de sa réserve et assumer le rôle de chef de famille. Alors, Marcos Uzal, cahier du cinéma, c'est le beau paradoxe de ce film extrêmement original. Le monde y est impitoyablement montré dans son agonie, mais la vie suinte de toutes parts. Sandra Onana, Libération, avec cette fable pince sans rire, où le patriarche d'une famille pauvre est transformé en poulet. L'Égyptien Omar El Zoairi signe un formidable premier film entre réalisme social et inquiétante étrangeté. Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche, Omar El Zoairi transcende la critique sociale pour signer une fable déroutante, irriguée par un humour très particulier à la frontière du réalisme crasseux et de l'absurde poétique. Le Parisien, si un humour acide vient parfois tempérer cette critique sociale qui pourra s'avérer trop extrême pour le grand public, ce premier film constitue l'acte de naissance d'un grand cinéaste dont il faut retenir le nom, Omar El Zoairi. La rédaction de West France, c'est l'Égyptien Zoairi, manie brillamment le burlesque pour raconter les dérives du patriarcat dans son pays. Une pépite. Oh. Et oui, Télérama, Guillaume Tolicino, Grand Prix de la Semaine de la Critique du dernier Festival de Cannes. Ce drôle de drame venu d'Égypte peut aussi prétendre à la palme du film le plus déroutant. Le réalisateur y insère très naturellement de l'absurde au sein d'un réel miséreux. Vous allez me dire, mais il n'y a que des bonnes critiques. Non, non, il y a Le Figaro, Étienne Sorin, et il y a Pierre Barry. Alors Le Figaro d'abord et Pierre Barry ensuite. Bizarrement, ce personnage de femme reste triste et taciturne. Le récit d'émancipation finit par avoir du plomb dans l'aile.
Ça alors, me rassure, Pierre, parce que moi, je vais pas être gentil non plus.
Ah bon?
Je vais pas être long non plus, parce que autant quand j'aime les films, je suis assez inspiré, et quand je n'aime pas, j'ai le stress de la page blanche. Aïe, aïe, aïe. Donc, une fois n'est pas coutume, je me suis lancé à aller voir un film à caractère fantastique. Un homme, tu l'as dit, est transformé en poule par un magicien, d'où le titre Plume. Mal m'en a pris, je suis sombré plusieurs fois dans la somnolence, tant le film s'étalait en longueur dans une suite d'images qui ressemblaient à un air de Plume ma poule. Ah oui, j'ai pas pu résister. Hein. Rendez-vous compte, presque 2 heures d'ennui, 1 heure aurait suffi à mon goût pour nous montrer cette femme qui doit assumer le rôle de son homme disparu et partager son logement avec cette poule qui n'est pas une poule de luxe. Je me demande si je retournerai voir une histoire fantastique. Michel, tu n'as rien raté.
Eh oui, c'est interdit moins de 12 ans, pourquoi ?
J'avais même pas fait attention à
oui,
ça.
Je vois que c'est interdit moins de 12 ans.
Bon, je dis rien de spécial. Hein.
Spécial
bon, non, d'accord. Sauf la magie, quoi.
Oui, bon, enfin bon, voilà. Bon, allez, je vais te faire plaisir, je sais que tu aimes Christopher Cross.
Ah oui.
J'ai... Et donc, Sailing, un titre que l'on entend dans le film Ambulance, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Thank you.
not far down to paradise. At least it's not for me. If the wind is right, you can sail away and find tranquility. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Neverland, no reason to pretend. And if the wind is right, you can find the joy of innocence again. Oh, the canvas can do miracles. Just you wait and see. Believe me.
Christopher Cross, un titre que l'on pourrait entendre dans l'émission de Pierre.
Ah non, c'est années 80, ça.
Ah, c'est années 80.
Ah oui, oui, c'est okay. Pas si vieux. Oui.
Bon. Donc, c'est un titre que l'on entend dans Ambulance. L'ombre d'un mensonge. L'ombre d'un mensonge, c'est un film qu'on peut voir au cinéaste. C'est Bully Lanners, le réalisateur. Bully Lanners, c'est un acteur, réalisateur, scénariste belge. Bien 65, il a son actif déjà quelques longs métrages. Hein. En 2004, Ultra Nova. En 2008, Eldorado, avec lui-même et Philippe Naon. 2011, Les Géants. 2016, Les Premiers et les Derniers, avec Albert Dupontel et lui-même. Et puis, on l'a vu acteur dans Adieu les cons, ou Effacer l'historique, par exemple, Convoi exceptionnel. Donc, ce film de Bully Lanners, eh bien, c'est au cinéaste. Et c'est deux séances par jour pour ce film, qui est donc d'une durée de 1h39. Phil s'est exilé dans une petite communauté presbytérienne sur l'île de Lewis, au nord de l'Écosse. Une nuit, il est victime d'une attaque qui lui fait perdre la mémoire. De retour sur l'île, il retrouve Millie, une femme de la communauté qui s'occupe de lui. Alors qu'il cherche à retrouver ses souvenirs, elle prétend qu'il s'aimait en secret avant son accident. Gilles Kerdreux dans West France, un film sensible et hors du temps. Caroline Vier dans 20 minutes, L'ombre d'un mensonge émeut en profondeur en faisant se rencontrer Bully Lanners et Michel Ferlet. L'Obs, François Forestier, il y a dans L'ombre d'un mensonge un élan romantique, une petite musique aigre et délicate. Il y a le plaisir purement cinématographique de regarder monter en un ciel ignoré du fond de l'océan des étoiles nouvelles. Waouh ! Eh bien, Marianne, Olivier de Bruyne, sur l'île de Lewis, entre les landes sauvages et des bords de mer agités par des vents ennemis, Bly Lanners ignore les clichés touristiques et signe un film infiniment pudique et délicat. Céline Roudin dans La Croix, Bly Lanners ose une grande histoire d'amour romantique entre deux quinquagénaires dans l'environnement austère de l'île de Lewis en Écosse, et malgré son scénario trop prévisible, charme par la simplicité de son évidence. Bon, Baptiste Thion, le journal du dimanche, très délicat. Le cinquième film de Bly Lanners a un air de déjà-vu, mais il séduit avec ses grandes étendues sublimées par une photographie soignée et ses personnages bien dessinés et incarnés. Marco Suzal, cahier du cinéma, beaucoup de vide à combler pour le spectateur qui se demande comment des adultes du XXIe siècle en arrivent à une situation si infantilisante où se donner la main en public devient l'acmé de la passion, si ce n'est que parce qu'un scénario accumulant les entraves l'a décidé, sans rien laisser véritablement s'installer, s'ouvrir, se déployer. Voilà, ça s'appelle « L'ombre d'un mensonge », c'est au cinéaste, s'il y a bien un film qui prend son temps, c'est celui-ci. Ça dure 1h39, mais on la sent bien passer. Hein. voilà, cette histoire d'amour, certes hors du commun, elle est complètement neurasthénique. Phil, il est belge, c'est un homme d'un âge mûr, il est employé dans une ferme, dans une île isolée du nord de l'Écosse, donc l'île de Lewis, moi je ne connaissais pas, mais c'est pas grave. À la suite d'un AVC, il se retrouve amnésique, et c'est alors que Millie, l'agent immobilier de l'île, lui déclare qu'avant son accident, eh bien, ils étaient amants. Vérité ou mensonge, eh bien, c'est l'un des enjeux du film. Alors dit comme ça, on se dit qu'il y a par exemple matière à un thriller à suspense, hein, on l'a déjà vu ça. Mais c'est pas du tout le chemin qu'emprunte le film, au contraire, il s'agit d'une histoire d'amour apaisé, alors apaisé, très apaisé, où le contexte compte autant que le récit. Alors il y a vaguement la crainte du « qu'en dira-t-on » dans un lieu où l'église presbytérienne a, semble-t-il, encore un certain poids. Le spectateur espère qu'il y aura un mystère à percer avec cet homme dont on ne connaît rien du passé. Eh bien, pas vraiment, ou alors si petit que le mystère n'a pas vraiment d'importance. Alors oui, on a de beaux paysages, de landes sous un ciel bas, mais on s'ennuie ferme. Alors, les critiques vendent le film comme un film, comme une histoire romantique. Moins. Si vous aimez la sobriété, l'épure à la rigueur, ben sinon c'est comme pour Plume, c'est à fuir. Voilà. L'ombre d'un mensonge au cinéaste. Allez, toujours au cinéaste, on termine avec En nous, un documentaire de Régis Sauder. Régis Sauder, c'est un réalisateur scénariste, directeur de la photo qui a à son actif de très nombreux documentaires, et notamment en 2009, Nous, Princesse de Clèves, dont ce film est un petit peu la suite. Sinon, il a aussi réalisé en 2012 Être là, en 2017 Retour à Forbach, et en 2021 J'ai aimé vivre là. Voilà, ça, il y a 10 ans, Emmanuel, professeur de français dans le lycée des quartiers nord de Marseille, participait à un film avec ses élèves, oui, donc celui que je vous ai cité, Nous, Princesse de Clèves. À partir de l'étude de la princesse de Clèves, Abou, Morgane, Laura, Kadiatou et les autres énonçaient leurs rêves, leurs désirs et leurs peurs. Tous se retrouvent aujourd'hui, les souvenirs se mélangent au récit de leur vie et des obstacles à surmonter. Que reste-t-il de leurs espoirs de liberté, d'égalité, de fraternité ? Je sais bien qu'il n'y a rien de plus difficile que ce que j'entreprends. Cette phrase du roman trouve plus que jamais écho en eux, en nous. L'humanité, Sophie Joubert, construit autour de la voix off très littéraire d'Emmanuel Bontou, la professeure, en nous brosse le portrait de jeunes gens qui, tant bien que mal, trouvent leur place dans une société fracturée et se libèrent des assignations. La revue Positive déclare que c'est un hymne à la jeunesse. Charlotte Garçon, dans le cahier du cinéma, la beauté d'en nous réside sans doute ailleurs que dans la curiosité attendrie des retrouvailles. C'est quand il se résout à l'austérité du portrait et accepte la normalité des vies présentes des jeunes gens que Sauder parvient à ériger des figures placidement héroïques. Baptiste Thion, le journal du dimanche, positif, mais pas naïf. Ce documentaire, soulignant la force de chaque protagoniste, porte en lui, en dit beaucoup, son grand discours. Je reprends parce que ma phrase n'est pas claire. Positif, mais pas naïf. Ce documentaire, soulignant la force que chaque protagoniste porte en lui, en dit beaucoup, mais sans grand discours. Voilà. Première, Thierry Chaise, une ode au service public, particulièrement à une école et son rôle majeur d'ascenseur social, en dépit de moyens exsangues, qui témoignent de l'immense talent de confesseur d'un cinéaste qui s'efface, en images comme en mots, derrière ce qu'il filme. Voilà, ça s'appelle « En nous », ça dure 1h39, c'est proposé par les cinéastes avec, en général, une séance par jour. Allez, un petit Damien Jurado-Schitz, un titre que l'on entend dans L'ombre d'un mensonge, et ensuite ben, les films de la semaine prochaine, les en première. Donc, Schitz, Damien Jurado sur Radio
avec deux œufs, j'espère.
Oui, oui, avec deux œufs. Oui. Oui. Voilà, ça doit vouloir dire drap, non, je crois. Sheets.
Oui, ou feuilles de papier.
D'accord.
Like an injured bird, needing a nest, a place to rest his head in a song you'll regret. Still you're taken, Lord knows I don't want to compete. Still I sleep in the very sheet. Swallow him whole like a pill that makes you choke and steals your soul. You have the nerve to look me in the eyes and lie. Send him back, I won't share the trap that you have me in.
Alors, donc, sur Sheets de Damien Jurado, je vous annonce les séances spéciales des cinéastes ce soir, si vous écoutez un diagramme, parce que si, ce soir, vendredi 25, c'est la soirée Bis menstruel numéro 19, et cette fois-ci, c'est deux films Bis de Jean Rollin, des parts du nanar français, hein, c'est La vampire nue, suivie de Lèvre de sang. Voilà, ça, c'est à 20h et 22h. Sinon, les cinéastes nous proposeront mardi à 20h une séance spéciale pour 5 nouvelles du cerveau. C'est un documentaire de Jean-Stéphane Moron qui sera proposé donc mardi à 20h aux cinéastes. Mardi soir également, eh bien, il y aura l'avant-première de Body, hein, au Méga CGR. C'est le film de Cédric Lapiche qui sortira le lendemain. C'est à 19h45 au Méga CGR. Ah, j'ai oublié, ce soir aussi, au Pâté, un film d'horreur, Abuela, un film espagnol, fantastique, à 22h. Donc ça sort aussi Abuela, mais plus tard, hein, c'est en avril. Alors les films à suivre la semaine prochaine, donc encore de Cédric Lapiche, Retour à Reims, Fragment. Alors c'est un film qui est déjà passé sur Arte, moi je l'ai vu sur Arte. Le Monde d'hier de Diasten avec Léa Drucker, Aristocrates. Un film, je pense, japonais. Yukido Sode, ça me paraît bien japonais comme nom.
Je crois que c'est ce que je vais aller voir.
Oui. Oui. Azzurro, un film français de Mathieu Rosé. Cyrano de Joe Wright. Alors là, j'ai très très peur parce que faire interpréter Cyrano par Peter Dinklage, ben, c'est quand même bon. Sonic 2, le film, ça, j'irai pas voir. Et Morbius, de Daniel Espinosa, j'irai probablement pas voir non plus parce que je suis un peu allergique aux Marveleries. Donc cette semaine, moi, je vous recommande Le Temps des Secrets si vous êtes... grand-père, vous amenez vos petits-enfants, et puis pour vous, vous pouvez y aller tout seul à partir de 55-60 ans. Bruno Rédal, vraiment très très intéressant. Les fans de films d'action, il faut absolument avoir Ambulance. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Puisqu'il faut éviter peut-être ses plumes.
Ouais, je suis étonné par les bonnes critiques. Parce que c'est vraiment ennuyeux. Hein.
Oui, mais les critiques se trompent beaucoup sur les succès.
Non, j'irais plutôt voir De nos frères blessés sur la guerre d'Algérie.
Oui, exactement. Ouais. Bon, allez, nous on. À la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et donc, oui, c'est l'heure. Hein. Allez, hop, générique, c'est parti.
Au revoir.
Au revoir.